VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide au micro, ravi de vous retrouver en ce mercredi 22 janvier 2020. Au sommaire ce soir, le président américain dit qu'il adorerait assister au procès en destitution au Sénat, mais que ses avocats l'en dissuadent. Et à Davos, où il se trouve, Donald Trump annonce des pourparlers pour réformer l'Organisation mondiale du commerce. La Chine redoute une mutation du nouveau coronavirus, un premier cas de maladie détecté aux États-Unis, alors que l'OMS tient une réunion d'urgence aujourd'hui. Dans l'actualité africaine, 500 000 euros, un salaire à vie et une villa pour le président burundais Pierre Nkurunziza à son départ annoncé de la présidence en mai 2020. Et comme à l'accoutumée, vos rendez-vous avec l'économie et les sports à venir dans 10 minutes environ. Et voilà, vous avez le programme. Bienvenue à l'écoute. Nous ouvrons par ce qui domine l'actualité américaine, la parole à l'accusation aujourd'hui. Les procureurs démocrates présentent en ce moment même au Sénat les faits reprochés au président Donald Trump après une première journée d'audience éprouvante hier qui a fixé le cadre de ce procès en destitution. Eric Manirakiza pour les détails.
L'élu démocrate de la Chambre des représentants Adam Schiff, chargé de porter l'accusation contre Donald Trump, détaille les éléments recueillis pendant les 3 mois d'enquête qu'il a supervisés. Les démocrates majoritaires à la Chambre basse accusent Donald Trump d'avoir bloqué une aide militaire cruciale pour l'Ukraine afin de la forcer à enquêter sur un de ses rivaux à la présidentielle de novembre. Le président Trump a tordu le bras d'un allié en gelant une aide militaire pour obtenir un coup de pouce afin de tricher lors de la prochaine élection, a plaidé Adam Schiff hier en ouverture du procès. Pour cela et pour ses efforts pour gêner l'enquête du Congrès, il mérite d'être destitué. Depuis la Suisse, où il assiste au Forum économique mondial de Davos, le président Trump s'est de nouveau posé en victime d'un coup monté orchestré par l'opposition démocrate pour l'empêcher de briguer un second mandat en novembre. L'élu de Californie et son équipe de 6 procureurs disposent de 24 heures étalées sur 3 jours pour exposer leurs arguments. Puis, ce sera au tour de la défense menée par l'avocat de la Maison-Blanche, Pat Cipollone, pour la même durée. Ce discret juriste conservateur s'est dit convaincu que les débats prouveraient que le président n'a rien fait de mal. Les sénateurs qui font office de jurés auront ensuite 16 heures pour poser leurs questions par écrit et seront lus par le président de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts, chargé par la Constitution de présider ce procès. Après 80 heures, ils devront décider s'ils acceptent de prolonger l'exercice en convoquant de nouveaux témoins, comme le réclament les démocrates. Ces derniers devront convaincre 4 républicains de rompre les rangs pour obtenir gain de cause, ce qui, compte tenu des tensions actuelles, semble difficile.
Dans l'actualité africaine, l'Algérie accueille demain une réunion des chefs de la diplomatie des pays voisins de la Libye dans le cadre des efforts pour parvenir à un règlement de la crise libyenne. Le point avec Bagassi Koura.
Les ministres des Affaires étrangères de la Tunisie, d'Égypte, du Soudan, du Tchad, du Niger et du Mali sont attendus demain à Alger, selon un communiqué de la diplomatie algérienne. Lors de cette rencontre, seront exposés les derniers développements en Libye afin de permettre aux frères libyens de régler la crise de leur pays, loin de toute ingérence, ajoute le communiqué. L'Algérie, qui partage près de 1000 km de frontière avec la Libye, a multiplié les consultations ces dernières semaines. Dimanche, pendant une réunion à Berlin, en Allemagne, sur la Libye, l'Algérie avait promis d'accueillir un dialogue inclusif inter-libyen après le premier ministre italien Giuseppe Conte et les chefs de la diplomatie française, turque, égyptienne et italienne. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est attendu dimanche à Alger pour une visite de 2 jours. Ankara et Moscou ont appelé à un cessez-le-feu qui est en vigueur depuis le 12 janvier. Mais aujourd'hui, les vols ont été suspendus à l'aéroport international Mitiga à la suite de tirs de roquettes. Le gouvernement basé à Tripoli accuse le maréchal Khalifa Haftar d'avoir violé la trêve.
Au Mali, le gouvernement a fixé au 29 mars prochain le premier tour des législatives reporté depuis 2018 dans un contexte sécuritaire et politique dégradé. Justement, à propos de l'insécurité au Mali, deux soldats ont été tués hier quand leur véhicule en provenance de Boni et à destination de Douenza a sauté sur une mine. Deux autres militaires ont été blessés. Et justement, Paris annonce le déploiement de renforts supplémentaires au Sahel d'ici à la fin de ce mois. D'après le chef d'état-major français des armées, François Lecointre, l'opération anti-djihadiste Barkhane va recevoir des moyens supplémentaires en sus des 220 soldats déjà récemment envoyés en renfort pour tenter de mettre un coup d'arrêt à la spirale des violences. Au Nigeria, 7 soldats ont été tués hier par deux présumés djihadistes affiliés à l'ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Les assaillants, arrivés dans plusieurs camions équipés de mitrailleuses lourdes, ont attaqué une position militaire dans le village de Mainok, près de Maïdougouri. Une villa, un chèque d'environ 500 000 euros, un salaire à vie. Voici les principaux avantages dont le chef de l'État burundais, Pierre Nkurunziza, devrait bénéficier à son départ annoncé de la présidence en mai prochain. Nous y reviendrons tout à l'heure dans la partie magazine. En Tanzanie, les élections générales prévues à la fin de cette année seront libres et équitables. C'est du moins ce qu'a affirmé hier soir le président John Magufuli. Il dit vouloir inviter des observateurs internationaux pour constater la maturité de la démocratie dans son pays. Au Malawi, arrestation d'un banquier soupçonné d'avoir tenté de corrompre des juges saisis d'une plainte liée à la réélection du président Peter Mutharika. L'interpellation a eu lieu quelques jours avant que la justice ne statue sur une plainte déposée par l'opposition.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
On vous le disait un peu plus tôt, depuis la Suisse où il assiste au Forum économique mondial de Davos, le président américain Donald Trump a indiqué aujourd'hui que Washington avait engagé des pourparlers pour réformer l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Il a également dénoncé à nouveau le traitement jugé inéquitable des États-Unis par l'institution dans le règlement de conflits commerciaux. Eki Abadou.
J'ai un différend avec l'OMC depuis assez longtemps parce que notre pays n'a pas été traité avec équité. Nous discutons d'une structure entièrement nouvelle pour se mettre d'accord. Nous devons faire quelque chose, a affirmé Monsieur Trump à Davos, aux côtés du directeur général de l'OMC, Roberto Azevedo. Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne de son côté, a indiqué à la presse avoir eu une très bonne conversation la veille avec le président américain en marge du Forum économique mondial. Washington a repris son offensive commerciale contre l'Europe en agitant à nouveau la menace de taxes douanières punitives sur les voitures. Ce sera très simple, si nous ne pouvons pas faire d'accord commercial avec l'Union européenne, nous devrons mettre une taxe de 25% sur leur voiture, a affirmé M. Trump à Davos dans une interview à la chaîne Fox News. Un accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne est possible d'ici quelques semaines, a affirmé ce mercredi la présidente de la Commission européenne qui veut apaiser les tensions.
Cette autre actualité que nous sommes en train de suivre pour vous, la Chine a averti que le coronavirus qui a fait 17 morts et contaminé des centaines de personnes est susceptible de se propager. Des nouveaux cas ont été signalés aux États-Unis et à Hong Kong. L'OMS s'est réunie à Genève pour examiner la situation. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Un premier cas de ce virus a été recensé aux États-Unis. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, originaire de Wuhan, en Chine, et résident près de Seattle. Arrivé mi-janvier sans fièvre à l'aéroport, il a contacté dimanche les services de santé locaux après avoir constaté des symptômes. Hong Kong a aussi signalé son premier cas suspect, un homme de 39 ans, arrivé en train de Wuhan, mais le résultat définitif des tests sera connu demain. Apparu en décembre dernier à Wuhan, le virus a gagné plusieurs pays d'Asie. La Chine se dit disposée à travailler avec la communauté internationale pour répondre efficacement à l'épidémie. Li Bin, vice-ministre de la Santé, a précisé que le virus qui se transmet par voie respiratoire a été diagnostiqué chez 444 patients. Il a ajouté qu'il peut se propager rapidement car des centaines de millions de Chinois voyagent à l'occasion des congés du Nouvel An lunaire. Pour le moment, aucun cas n'est signalé en Afrique, même si beaucoup d'hommes d'affaires africains font des voyages en Chine. L'OMS se réunit à Genève pour déterminer s'il convient de déclarer une urgence de santé publique mondiale.
Israël tente cette semaine de persuader les États-Unis, mais surtout la Russie et la France, d'user de leur influence au Moyen-Orient pour y juguler celle de l'Iran, présentée comme la nouvelle menace contre les Juifs. 75 ans après la Shoah, une quarantaine de dirigeants étrangers ont commencé à affluer à Jérusalem pour les commémorations demain, jeudi, de la libération du camp nazi d'Auschwitz, avec au programme la lutte contre l'antisémitisme en Occident et le dossier iranien. Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, la menace nazie d'antan porte aujourd'hui un autre nom, celui de l'Iran, car la République islamique menace par son programme nucléaire et balistique, dit-il, l'existence même de l'État hébreu. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, en condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Nanit Talani.
L'Angola lancera le processus d'inscription en bourse de 30% des parts de la compagnie pétrolière Sonangol dans les deux prochaines années, mais pas avant la refonte de cette société d'État, a annoncé le ministre des Ressources minérales et du pétrole, Diamantino Azevedo. Dans un premier temps, de nombreuses activités non essentielles de la Sonangol seront affectées à la privatisation. Ce n'est qu'à la fin de ce processus que la Sonangol pourra être introduite en bourse. L'Ouganda a exporté plus de 330 000 sacs de café de 60 kg le mois dernier, contre environ 314 000 sacs en 2018, soit une hausse de 5% selon l'autorité ougandaise de régulation du secteur du café. Ce dernier représente la plus grande exportation de produits de base de l'Angola après l'or. Le café contribue pour environ 400 millions de dollars au PIB du pays chaque année. Pour terminer, South African Airways, bien que lourdement endettée, devrait être maintenue en tant que compagnie aérienne nationale, mais a besoin d'une restructuration substantielle. La compagnie manque de liquidité après que le gouvernement n'a pas fourni les 138 millions de dollars de fonds d'urgence qu'il avait promis.
Et maintenant, pour un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Nouvelle victoire érythréenne à la Tropical Amissa Bongo.
Oui, elle est l'œuvre de Biniam Ailou Guermé. L'érythréen a remporté la troisième étape de l'épreuve courue entre Medzic et Ndjolé, 186 km. Il s'est imposé avec une vitesse moyenne de 43,50 km/h, devançant les Français Jordan Levasseur et Emmanuel Morin. Au classement général, le maillot de leader reste sur les épaules de Nathanael Tesfazion. Vainqueur de la deuxième étape hier, il possède 4 secondes d'avance sur Levasseur et 9 sur Morin. La Tropicale 2020 se poursuit demain avec l'étape 4 entre Lambariné et Mouila, 190 km.
Hakim Ziyech, blessé et absent plusieurs semaines.
L'international marocain de l'Ajax Amsterdam sera absent plusieurs semaines en raison d'une déchirure musculaire à un mollet. La durée exacte de cette absence n'a pas été précisée, mais il semble peu probable de voir Hakim Ziyech disputer le match de 16e de finale aller de l'Europa League le 20 février prochain à Getafe. Le Lion de l'Atlas s'est blessé dimanche face au Sparta Rotterdam en championnat. Cette blessure met aussi à mal un éventuel transfert du meneur de jeu qui avait reçu un bon de sortie dès cet hiver. Selon la presse néerlandaise, l'international marocain était suivi notamment par Arsenal et Tottenham.
Le Mexicain Chicharito Hernandez signe avec les Los Angeles Galaxy.
Oui, l'attaquant mexicain du FC Séville a été transféré au Los Angeles Galaxy de la MLS américaine. Chicharito aura pour mission de combler le vide laissé par le Suédois Zlatan Ibrahimovic, qui a signé en décembre avec l'AC Milan. Selon le magazine Sport Illustrated, Hernandez touchera 6 millions de dollars, soit le salaire le plus élevé pour un footballeur de la MLS. Arrivé l'été dernier de West Ham, le joueur mexicain de 31 ans, qui a aussi porté les couleurs de Manchester United et du Real Madrid, met ici un terme à une étape de seulement 5 mois à Séville. L'attaquant n'a joué que 15 matchs cette saison, marquant 3 buts sous la houlette de l'entraîneur Rulen Lopetegui.
Et en NBA, le championnat de basket nord-américain, les Clippers s'imposent sur le fil à Dallas.
Oui, Luka Doncic et Kawhi Leonard, 36 points chacun, se sont livrés à un superbe duel, mais c'est ce dernier qui a eu le dernier mot. avec les Clippers, vainqueurs 110 à 107 à Dallas pour leur deuxième confrontation de la saison régulière. La star des Clippers, qui en est à 6 matchs d'affilée à 30 points ou plus, a cru avoir éteint les espoirs texans avec un panier à 3 points à 1 minute 15 secondes du terme, qui a porté le score à 108 à 100, mais Doncic a répliqué lui aussi derrière l'arc 7 secondes plus tard, puis Leonard a ajouté 2 paniers francs sans trembler, suffisant pour rendre vain le dernier panier de Doncic qui a frôlé le triple-double, 10 rebonds, 9 passes décisives.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
C'est l'heure maintenant de vous proposer notre tranche magazine dans le monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci, chère madame, cher monsieur, pour votre fidélité à VOA Afrique. Retour au Burundi. Le Parlement du pays a adopté hier un projet de loi qui accorde une panoplie d'avantages à tout ancien chef de l'État élu au suffrage universel à 4 mois de la présidentielle à laquelle Pierre Nkurunziza a dit ne pas se représenter. La nouvelle loi prévoit que l'ex-président bénéficie d'une villa de très haut standing construite sur les fonds publics, de même que d'une allocation unique d'un milliard de francs burundais. Il recevra les mêmes traitements que le vice-président en exercice durant les 7 premières années et bénéficiera ensuite à vie d'une indemnité égale aux émoluments d'un député. Pour une réaction, Nathalie Barge a joint Arlette de la diaspora burundaise en Belgique qui souhaite garder l'anonymat.
Ce projet de loi est une aberration parce que dire que le président Nkurunziza a été élu au suffrage universel, c'est vouloir occulter aussi qu'il a voulu briguer un troisième mandat qui était illégal et anticonstitutionnel. Donc, sur ce fait-là, c'est une manière de se protéger, contre quoi je ne saurais pas répondre, mais c'est aussi une manière d'exclure d'autres présidents, parce que même si, peu importe la manière dont ils ont accédé au pouvoir, dans la constitution burundaise, il y avait un article qui consistait au sort qu'on réservait aux anciens présidents. Donc, ça veut dire que c'est enlever le statut d'ancien président aussi, alors qu'on devrait normalement penser à toutes ces personnes qui ont occupé des hautes fonctions comme les présidents et qui méritent une certaine considération, mais qui n'est pas aussi exagérée comme ce projet de loi le présente aujourd'hui.
Alors, que pensez-vous de ces avantages, hein, si l'on tient compte notamment du niveau de vie des populations subissant la crise?
Ça ne fait que consolider la réflexion des personnes qui disent que c'est un président qui ne réalise pas, qui ne veut pas voir la situation réelle dans laquelle la population burundaise vit chaque jour, parce qu'il y a une insécurité alimentaire criante. Et il y a aussi des gens qui croupissent dans les camps de réfugiés à l'extérieur du pays, qui voudraient bien rentrer. Et le Burundi fait partie des 5 premiers pays les plus pauvres du monde. Il y a beaucoup d'enfants qui ne vont plus à l'école parce que manque d'infrastructures. C'est une décision vraiment aberrante.
Cette mesure confirme-t-elle que Pierre Nkurunziza ne se représentera pas à la présidentielle comme il l'avait annoncé à ce niveau-là? Comment voyez-vous justement ce nouveau développement?
C'est trop m'avancer pour dire qu'il ne se représentera pas. S'il ne se représente pas, ça sera peut-être en pas, parce qu'il va garder tous les honneurs qui sont équivalents aux honneurs du vice-président. Donc ça veut dire que quelque part, est-ce que réellement il va partir? Où il veut toujours garder sa main mise sur la personne qui va le succéder.
Connectez-vous, téléchargez la nouvelle application VOA disponible sur iTunes et Google Play. L'ancienne application VOA ne sera plus disponible après le 15 janvier 2020.
Les réactions maintenant au Burkina Faso, lendemain du vote de cette nouvelle loi pour le recrutement des volontaires pour lutter contre le djihadisme dans le pays. Le Parlement a adopté hier un projet permettant que des civils puissent être armés et formés pour contribuer à la lutte contre le terrorisme. Mais le pays a déjà des groupes d'autodéfense appelés Kogloego. Que pensent justement ces Kogloego? Vont-ils se soumettre aux nouvelles dispositions? Bagasikura a joint à Magognaï Dougou dans son champ de culture, Boukari Kabore, dit le lion. Il est l'un des commandants du groupe d'autodéfense.
Je ne vois pas trop comment est-ce que ça va se réaliser. J'attends de voir. Parce que je ne sais pas pourquoi. Bon, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on a déjà des structures qui existent. Je ne sais pas exactement pourquoi ne pas directement faire fonctionner ces structures-là. Bon, en corrigeant justement les erreurs qu'il y en a.
Vous parlez de quelle structure là, des Kogolwego notamment?
Notamment le Kogolwego. Le monde entier a entendu parler justement de la question de Kogolwego. Et le Kogolwego est tellement efficace au Burkina. Bon, je ne sais pas pourquoi alors on ne normalise pas.
Mais souvent aussi, on a entendu qu'ils ont été accusés d'avoir commis des exactions.
Non, mais écoutez là, on peut pas travailler sans erreur. Hein. Mais si vous êtes sur place ici, vous allez vous rendre compte que c'est tellement positif que personne ne peut contredire ça. Mais là aussi, c'est le peuple là. C'est-à-dire, ces structures-là sont mises en place par le peuple qui prend ses responsabilités pour sa propre sécurité. Mais je ne sais pas, ceux qui votent les lois là, est-ce qu'ils savent que le peuple est légitime?
Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour les Kogolwego d'avoir un cadre juridique, d'aller se faire enrôler?
Non, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent tuer cette structure-là.
Vous pensez que vos hommes ne vont donc pas accepter ces nouvelles mesures-là qui vont réorganiser le volontariat?
Non, mais là maintenant, ça n'a rien à voir avec le Kogolwego. Parce que bon, là maintenant, c'est une mesure, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre une loi. Ils veulent créer une structure bon, qui va venir trouver justement le Kogolwego.
Peut-être les Kogolwego vont se dissoudre et aller rejoindre ces nouvelles structures.
Non, moi, ça m'étonnerait. Parce que ça ne répond pas là. Là, c'est le pouvoir qui met en place, alors que de l'autre côté, c'est le peuple légitime là qui met en place. Et les gens, s'ils veulent être indépendants, ils sont jaloux. Mais il est question maintenant de sécurité. Maintenant, les gens savent qu'on vu que vraiment l'État n'arrive pas à subvenir à leurs besoins. Et les gens se sont organisés et ça marche très bien. Mais alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on reproche au Kogolwego? Pourquoi ils ne veulent pas?
Parce que les attaques continuent à travers le pays.
Bon, vraiment, c'est malheureux, hein, mais finalement, c'est ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas normaliser, ils parlent de volontariat. Ces volontaires-là, ils seront payés, ils seront encadrés comment, ils seront où? Voilà des structures, voilà une structure qui vient et qui va maintenant imposer encore des dépenses à l'État. Bon, je ne sais pas, comment est-ce qu'on va gérer ça? Alors que le Kogolwego, non. Les gens qui s'organisent, le village s'organise déjà. Les villages sont déjà organisés et font le travail exactement de sécurité et coopèrent avec la gendarmerie et la police.
Boukari Kabouré, dit le Lion, l'un des commandants du groupe d'autodéfense Kogolwego, était en ligne de son champ de culture à Magognaïdougou au Burkina.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Togo, un mois du premier tour de la présidentielle du 22 février prochain, l'opposition peine à s'entendre sur une stratégie commune. Si d'un côté, on estime que seule une candidature unique de l'opposition peut garantir l'alternance dans le pays en cette année 2020, de l'autre, on mise sur l'invalidation de la candidature du président Faure Gnassingbé, doublée à des conditions de transparence, nous rapporte de Lomé notre correspondante Kaïl Orson.
Combien de candidats seront face à Faure Gnassingbé le 22 février prochain? Pour l'archevêque émérite de Lomé, Mgr Philippe Bodjo, la question ne se pose pas. Il estime que le candidat Agbeome Kodjo, à qui il a donné son onction, doit être le seul. Ainsi, le prélat appelle les 5 autres candidats de l'opposition à s'aligner derrière Agbeome Kodjo pour donner le coup de grâce au président sortant. Mgr Bodjo insiste sur l'unicité de la candidature de l'opposition.
Cette année 2020, aucune défaite n'est envisageable et seule l'union peut nous l'assurer, car un seul candidat contre Faure Gnassingbé est la meilleure garantie de l'alternance pacifique au Togo.
Un appel qui visiblement irrite le candidat de l'Alliance nationale pour le changement. Nous écoutons le candidat Jean-Pierre Fabre de l'ANC.
Vous ne pouvez pas prétendre faire de la démocratie et choisir des candidats. Les candidats, c'est le peuple qui les choisit. Les Béninois ont 83 candidats contre le candidat du parti au pouvoir et ont battu. On a perdu combien de temps à parler de candidature unique? Vous avez constaté, depuis qu'on en discute, qu'il arrivera un moment où on tombera d'accord. Si vous n'arrivez pas à constater, abandonnez.
Si le consensus autour d'une candidature unique de l'opposition fait défaut, les candidats sont d'accord à œuvrer ensemble pour arracher des conditions électorales démocratiques pour l'avènement de l'alternance au Togo. Agbeome Kodjo, candidat à l'élection présidentielle.
Nous nous soutenons tous avec un seul objectif, l'alternance. Ce qui nous lie, nous, c'est de tout faire pour donner donc à la population togolaise son alternance en 2020. Là-dessus, entre nous, candidats, nous sommes prêts à faire tous les sacrifices.
Il est à noter que le candidat Jean-Pierre Fabre a déposé ce 20 janvier un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour l'annulation de la candidature de Fornia Singbe. Le candidat de l'ANC estime que cette candidature du président sortant, qui brigue un quatrième mandat, viole l'article 59 de la Constitution togolaise qui dispose que le président est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Kailson, Lomé, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, après l'étape de la composition des équipes et les prestations de serment, le procès en destitution du président Donald Trump entre cette semaine dans une étape historique, celle du lancement des débats au Sénat. Ce procès qui se tient à la Chambre du Parlement, dominée par les Républicains, est le troisième de ce genre dans l'histoire des États-Unis. Quelles sont les implications politiques de ce procès? Aura-t-il un impact sur les élections de novembre? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Et justement, revenons sur ce procès en impeachment aux États-Unis. Pendant de longues heures hier, les sénateurs américains ont écouté les arguments des accusateurs et des défenseurs du président Donald Trump. L'audience d'hier a été dominée par une âpre bataille sur le format du procès. Pour la troisième fois dans l'histoire du pays, les élus de la Chambre haute vont décider si le locataire de la Maison-Blanche doit être destitué ou pas. Davantage avec Abdourahmane Dia.
The Senate will convene as a court of impeachment.
Au premier jour de ce procès historique du président Donald Trump, les démocrates auront essayé de présenter des preuves recueillies dans l'enquête pour savoir si le président a utilisé l'aide à l'Ukraine pour solliciter une ingérence étrangère dans les élections de 2020. Chuck Schumer, le leader de la minorité démocrate au Sénat.
If Americans start believing,
si les Américains commencent à croire en effet que les étrangers peuvent élire les présidents, les sénateurs et les gouverneurs, si des étrangers peuvent interférer dans les élections, déterminer le résultat en lieu et place du peuple américain, notre démocratie est largement affaiblie. Les gens vont commencer à perdre confiance aux élections.
Les républicains majoritaires au Sénat ont fait barrage, soutenant que le procès du président Bill Clinton en 1999 devrait être le modèle. Mitt Romney, sénateur républicain.
Je pense qu'il est important d'entendre l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, et peut-être d'autres témoins. Évidemment, en tant que la défense que pour l'accusation, le bon moment pour ce vote, c'est après le plaidoirie, et c'est la procédure adoptée pendant le procès de Clinton.
Une approche qui permet d'éviter les batailles partisanes, comme pendant le processus de mise en accusation au niveau de la Chambre, d'après Mitch McConnell, le principal allié du président Trump au Sénat.
Can the Senate still serve?
Le Sénat peut-il encore servir notre objectif fondamental? Pouvons-nous encore placer l'équité, l'impartialité et le présent historique avant la passion partisane du moment? Le vote d'aujourd'hui va apporter des réponses.
La majorité républicaine au Sénat donne un avantage politique au président Trump. Toutefois, la réticence des républicains à appeler des témoins pourrait avoir des conséquences énormes. McConnell a accepté un délai plus long pour le début des plaidoiries. Les démocrates croient que plus de temps leur permettra de plaider contre Trump devant l'opinion publique. Adam Schiff, le chef des 7 procureurs démocrates nommés par la Chambre basse du Congrès.
Un grand nombre, peut-être même la plupart des Américains, ne croient pas qu'il y aura un procès équitable. Ils ne croient pas que le Sénat sera impartial. Ils croient que le résultat est prévu d'avance. Le président sera acquitté, non pas parce qu'il est innocent, il ne l'est pas, mais parce que les sénateurs vont voter suivant une ligne partisane et il y a des voix requises pour ce faire.
Les procureurs démocrates auront 3 jours pour plaider leur cause au Sénat. Les avocats de la Maison-Blanche vont commencer leur défense samedi.
Le Monde Aujourd'hui prend fin ici. Gisèle Morissin était à la réalisation. Zeynab Abdelrahman a assuré la partie technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. Take care. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.